Dans le livre de Jacques, l'épître de Jacques est chapitre 4. L'épître de Jacques, chapitre 4, et quand vous y êtes, d'abord je prie. Seigneur, merci de m'aider à partager ta parole ce matin. Tu es là au milieu de nous et on a besoin d'entendre ta voix. On a besoin d'entendre ton conseil. C'est tellement important pour nous de te sentir tout près, de savoir que tu diriges nos vies. Seigneur, ce matin, ça sera peut-être pour quelqu'un une promesse, pour d'autres un avertissement, pour d'autres un encouragement. Mais Seigneur, on a besoin de t'entendre ce matin. Aide-moi à partager la parole de Dieu. Que ton esprit soit à l'œuvre maintenant. Amen. Jacques, chapitre 4, verset 1er. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas dans vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humilez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu et qui juge le prochain ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que Jacques ne fait pas dans le langage diplomatique. Il est direct, il est cash, et c'est son style. Si vous avez des personnes qui ont tendance un petit peu à être mystiques, faites-leur lire l'épître de Jacques. Ça ramène les pieds sur terre. C'est très direct, mais ça interpelle. Dans tout ce que Jacques dit ici, je voudrais braquer le projecteur sur cette parole. Soumettez-vous donc à Dieu. Je voudrais lire aussi un autre texte dans l'épître suivante, première épître de Pierre, chapitre 5, verset 6. Donc on peut lire avant, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez donc sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Ce texte rejoint le premier que nous avons lu, puisqu'il est question, d'ailleurs on trouve une déclaration commune, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il est question dans ce texte aussi de soumission, d'humilité et de résistance au diable. La question que nous allons nous poser ce matin, qu'est-ce que ça peut vouloir dire se soumettre à Dieu? Mais avant, je voudrais aborder plusieurs points. Et d'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que ce texte et cette déclaration, se soumettre à Dieu, dans cette déclaration, Jacques nous donne de bonnes raisons de nous soumettre à Dieu, je vais le dire comme ça. Je comprends dans ces deux textes, et notamment le premier, que pour résister au diable, ça passe par la soumission à Dieu. Je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Vous savez, ces dernières années, il est apparu toutes sortes de méthodes pour triompher du diable. Vous avez la confession, la prise d'autorité, si on peut parler comme ça, la confession des péchés des générations précédentes, des excès dans la délivrance. Et je crois qu'on pourra dire toutes les paroles de foi ou d'autorité, on pourra prendre autorité autant qu'on veut. S'il n'y a pas de soumission à Dieu, ça sera difficile de lui résister. J'ai déjà donné ce fait-là, mais je le redis, il y a quelque temps, une personne qui ne fréquente pas l'Église m'a appelé pour me demander conseil. Cette personne a réalisé qu'elle était en concubinage et qu'elle était en faute devant Dieu. Et la personne me demandait et me disait ceci. Si je fais une prière d'autorité, est-ce que je pourrais briser les liens d'âme ? Dans ce qu'il me demandait, il y avait plusieurs choses qui me dérangeaient. D'abord, qu'entendait-il par lien d'âme ? Et je percevais quelque part derrière une doctrine un peu bizarre. Attention à tout ce vocabulaire qui n'est pas dans la Bible, mais qui est beaucoup utilisé. Je me rappellerai toujours M. Copin, on lui avait posé une question. Il avait répondu, mais où est-ce qu'on lit dans la Bible ça ? Et des fois, il y a tout un vocabulaire qui circule, mais qu'on ne trouve pas dans le langage biblique, et ça doit nous interpeller. Ce qui me dérangeait aussi, ou qui m'a dérangé après coup, c'est que cet homme me donnait l'impression de plus craindre le diable que Dieu. Et ça, ce n'est pas la première fois auquel je suis confronté. Récemment encore, je disais à quelqu'un, je vois plus de foi dans le diable que dans Dieu dans ta démarche. C'était pour l'interpeller. Et puis, surtout, ce qui me dérangeait, et qui rejoint notre sujet, c'est que la personne, elle était prête à prendre autorité pour se débarrasser de ce lien, soi-disant, mais elle n'était pas prête soit à se séparer, soit à se marier pour régler sa situation. Elle n'était pas prête à se soumettre à Dieu. Et forcément, dans cette manière de penser, je ne pourrais pas résister aux assauts du diable, aux accusations du diable, aux emprises du diable. Le diable a une palette d'actions. Et nous le savons très bien, ce n'est pas parce que nous sommes à Jésus-Christ qu'on en a fini avec lui. S'il y a ces paroles autant dans l'épître de Jacques que dans l'épître de Pierre, c'est que le diable a un champ d'action. La Bible dit « résister au diable », ça nous montre qu'il est à l'attaque. Alors bien évidemment, pour nous, le principal levier pour le diable, c'est le péché. Si je tolère le péché, si je ne le traite pas, c'est ce qui va lui donner un accès. Dans Éphésiens chapitre 4, il est dit « ne donnez point accès au diable ». Mais quand on regarde autour, on voit bien que c'est le péché qui donne un accès au diable. Et si je le tolère, si je ne le traite pas, forcément il y aura une emprise. Il va m'accuser, il va m'accabler, ça va lui donner un champ d'action, inévitablement. On échappe pas. Il peut y avoir d'autres choses. Ce que je crois, si je crois un peu tout, n'importe quoi, forcément, il va en profiter. Mais principalement, ce qui donne un accès au diable, c'est le péché. Et ça, c'est important pour nous de se le rappeler. C'est pourquoi on veut apprendre à le traiter, à le refuser dans nos vies. Et puis je remarque aussi que la soumission à Dieu va faire disparaître ou estomper les luttes intérieures qui peuvent nous agiter. Il est question de luttes qui agissent dans les membres. Ces luttes qui combattent. Il est question, Jacques parle ainsi. Là, il ne parle pas du combat de la foi, mais il parle de ces choses qui nous agitent parce que des fois nous sommes irrésolus, tiraillé dans notre cœur, partagé et qu'on ne prend pas certaines décisions. On a tous connu et on connaît encore ce combat intérieur entre les désirs de l'esprit et les désirs de la chair. Et des fois, à l'intérieur, ça ressemble à un champ de tir, un champ de mire parce qu'on est partagé, parce qu'on ne prend pas de décision. Et il est évident que pour résister, j'ai besoin de me soumettre, de capituler, de traiter certains problèmes. Des fois, on a des situations qui ne s'arrangent pas parce qu'au niveau du cœur, on ne prend pas une décision. Je ne pense pas être le seul dans ce cas-là. Nous sommes tous ainsi. Mais comprenons bien que la résistance au diable passe inévitablement par la soumission à Dieu. Voilà de bonnes raisons de se soumettre à Dieu. J'ai une introduction assez longue. Le deuxième point que je voudrais partager, toujours dans mon introduction, c'est que la Bible parle de soumission dans de nombreux domaines. Et pas seulement dans la soumission envers Dieu. La Bible dit et parle des démons qui étaient soumis aux apôtres. Quand ils sont revenus tout excités vers Jésus, les démons nous sont soumis. Ils l'ont dit. Dans Luc chapitre 10, verset 17. La Bible parle de la chair qui ne peut se soumettre à l'esprit. Et ça rejoint d'ailleurs notre texte de Jacques, qui parle de ces luttes, ces passions qui nous agitent dans nos membres. Le Nouveau Testament exhorte les croyants et même tout le monde à se soumettre aux autorités. Là, on touche un sujet sensible. Parce que ça soulève toutes sortes de questions, notamment jusqu'où devons-nous, pouvons-nous être soumis. En tous les cas, la Bible pose le principe de la soumission, de l'autorité venant de Dieu, et le principe de la soumission aux autorités. Et c'est une parole qu'il est bon d'affirmer et qu'on ne doit pas oublier dans une période de méfiance, voire de défiance vis-à-vis des autorités. Même si les chrétiens, nous ne sommes pas des moutons de Panurge, et on réfléchit, bien évidemment. La Bible nous dit aussi, dans le domaine de l'autorité ou de la soumission, parce que l'autorité et la soumission, c'est un petit peu lié, que dans le domaine des dons spirituels, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça veut dire que celui qui a une inspiration, puis qui devient incontrôlable, ça pose un problème. Je me permets de dire à ce niveau-là, ne confondons pas manifestation de l'esprit et réaction à l'esprit. Une réaction à l'esprit peut être charnelle. Je reviendrai peut-être dessus. À plusieurs reprises, et là c'est un sujet compliqué qui nous échappe un petit peu, le Nouveau Testament parle de la soumission de Jésus-Christ au Père, qui lui-même lui a soumis toutes choses. Il y a plusieurs textes, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 28. La soumission du Fils au Père n'empêche pas son égalité. Même valeur, mais différence de fonction. Le Nouveau Testament exhorte les croyants à se soumettre les uns aux autres. Vous avez plusieurs textes. Éphésiens, chapitre 5, verset 21, et puis dans un texte que nous avons lu aussi. C'est peut-être l'un des aspects les plus importants, la soumission. Ça veut dire que tout chrétien doit savoir se soumettre. Vous avez aujourd'hui des gens qui ne veulent pas de vie d'église parce qu'ils ne veulent pas se soumettre quelque part. Ce n'est pas la seule raison. Mais des fois, vous avez des gens qui ont un problème avec l'église parce qu'ils ont un problème de soumission. Tout le monde est appelé à la soumission, pasteur en tête. Un pasteur, c'est quelqu'un qui doit rendre des comptes. Et s'il devient incontrôlable, s'il pense ne plus avoir de compte à rendre, il est hors jeu et il va vite déraper. Et puis, il y a un autre sujet brûlant. Celui-là, je sens que certains le sentent arriver. La Bible parle de la soumission de la femme à son mari. Alors là aussi, on est sur un terrain miné, dans une génération qui ne supporte pas ce langage. Et c'est vrai que c'est un texte qui rend mal à l'aise le prédicateur. Personnellement, je ne sais pas toujours. Mais en tous les cas, c'est un texte qu'on ne peut pas balayer ou faire comme s'il n'y était pas. Parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a au moins quatre dans le Nouveau Testament. Et on n'a pas le droit de dire « c'est contextuel ». Maintenant, je suis aussi, là je lance le pavé, mais je voudrais dire aussi que je suis mal à l'aise des fois avec la notion de la soumission chez certains. Où le mari profite de cette situation des fois pour devenir, pour tout diriger, tout commander. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme qui s'appelait Nabal, c'était un fou, un insensé. Il aurait mieux fait d'écouter sa femme, qui était intelligente. Je crains que des Nabals, il puisse y en avoir encore. Enfin, on ne veut pas aussi être un Acab qui était manipulé par la Jézabel. Voilà, j'ai mis les choses, mais je ne vais pas plus loin. C'est une parenthèse que je referme. Le Nouveau Testament parle de la soumission des esclaves à leur maître. Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'esclavage, mais il y a encore beaucoup d'ouvriers, d'employés qui doivent savoir se soumettre à leur employeur ou à leur patron, ou même à leur chef, même s'il y en a qui jouent petit chef. La Bible parle de la soumission des plus jeunes aux anciens, de la soumission aux conducteurs spirituels et même aux apôtres. Il y a aussi plusieurs textes, on en a lu un notamment. Et puis la Bible parle enfin de la soumission des enfants aux parents. C'est dans la Bible aussi. Donc là, je vois des parents qui regardent tout de suite leurs enfants et qui font passer le message. Mais donc, elle existe aussi. Et c'est bien de le rappeler dans une période où vous avez des parents qui négocient chaque fois qu'ils donnent un ordre à leurs enfants. Des fois même, on a l'impression que ce sont les parents qui sont soumis aux enfants chez certaines familles. Ce qui est remarquable, c'est que dans toutes ces soumissions qui sont mentionnées là, c'est toujours le même mot. Le mot « hupotasso », « hupo » qui veut dire « dessous », « tasso » qui veut dire « position ». C'est un positionnement dessous. Et finalement, c'est assez simple à comprendre. Mais ça veut dire que selon les cas, la soumission aura forcément des nuances. Elle signifiera obéir, se laisser commander ou se laisser contrôler, céder à un avertissement ou un conseil, s'humilier, rendre compte, se placer sous le commandement d'eux, respecter tout en coopérant. Il y a une notion militaire dans la soumission et c'est un mot qu'on retrouve dans l'armée. Un autre point d'introduction, nous sommes devenus fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et rappelons-nous, j'avais il y a quelque temps, j'avais signifié la différence entre fils et enfant. On ne reste pas tout le temps un enfant, mais on restera toujours le fils d'eux. Fils, c'est une position, c'est aussi une condition, mais c'est une position. Et le fait d'être fils de Dieu nous donne la possibilité d'user du nom de Jésus-Christ. Le fait d'être fils de Dieu nous donne droit à un héritage dans lequel on peut rentrer dès maintenant, notamment dans les choses de l'esprit. Mais le fait d'être fils de Dieu donne aussi des droits, mais aussi des devoirs, et notamment un devoir de soumission. Hébreux chapitre 12, verset 8. « Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie. Maintenant que je dis tout ça, je voudrais pointer dans trois directions par rapport à ce qu'elle peut signifier. Premièrement, se soumettre à Dieu, ça veut dire accepter le commandement de Dieu sur notre vie et coopérer. Je le disais, il y a une résonance militaire dans la soumission. Vous rappelez ce centenier qui est venu vers Jésus pour la guérison de son serviteur qu'il aimait bien. Et il a dit à Jésus, donne une parole et ça suffira. Et Jésus a loué la foi de cet homme. Parce que, et il dira, tu sais, moi, je suis soumis à des supérieurs. Et je dis à quelqu'un, fais ceci, et il le fait. Il connaissait le principe de la soumission et de l'autorité. Et il savait comment ça fonctionnait. Et il reconnaissait en Jésus la suprême autorité. Il reconnaissait qu'il était celui à qui il faut se soumettre. La soumission à Jésus-Christ, la soumission à Dieu, nous ramène inévitablement sur la seigneurie de Jésus-Christ. Et nous ne voulons pas être comme ces personnes qui diront « Seigneur, Seigneur », mais qui ne font pas ce que Dieu veut. Nous, on veut dire « Seigneur, Seigneur », mais on veut pas seulement le dire, mais être. Il y a un texte qui dit « Celui qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur ». Mais nous le confessons dans le sens aussi que nous le vivons au niveau de notre cœur. Et nous voulons accepter qu'il dirige nos vies. Nous n'avons pas accepté Jésus seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Et c'est important de se le rappeler. Et nous voulons dire à Jésus, comme Jésus a dit à Gethsémané, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous savez, avec la volonté de Dieu, nous n'avons pas un problème de connaissance de la volonté de Dieu. C'est faux. Nous avons un problème de soumission à la volonté de Dieu. Dans bien des cas, nous connaissons la volonté de Dieu. Et la Bible, elle nous montre clairement la volonté de Dieu. Mais c'est plus une difficulté par rapport à se soumettre à ce que Dieu veut, plutôt que de connaître. Alors c'est vrai que dans certains domaines, on a besoin d'une révélation. Mais dans beaucoup de domaines, on sait souvent ce qu'il en est. Mais on a du mal à se soumettre. On a du mal parce qu'on résiste, parce que au fond de nous, il y a une pression d'un autre côté. On connaît tout ça. Et on est bon des fois même pour se persuader que la volonté de Dieu est là, alors qu'au fond de nous, notre conscience nous dit autre chose. C'est important de se le rappeler. Je pense à l'apôtre Paul. Quand il s'est converti sur le chemin de Damas, il va avoir la révélation de Jésus. « Je suis Jésus que tu persécutes. » J'aime cette parole. Parce qu'en deux temps, trois mouvements, il a compris que Jésus c'est le Seigneur et que lui c'est un pécheur. Il y a tout. Et il pose cette question « Qui es-tu hein ?»« Je suis Jésus que tu persécutes. » Et puis il pose une deuxième question. « Que veux-tu que je fasse ?»« Que veux-tu que je fasse ?» Je me permets de dire, j'envoie un message codé à quelqu'un. Il n'est pas tombé de chameau ni de cheval. Il est tombé tout seul. Il se reconnaîtra, celui qui est... Mais on a tendance souvent à mettre l'apôtre Paul faire tomber de cheval. Il n'y a rien qui est dit. Il est tombé. Tout court. Voilà, je reviens sur ma pensée. Mais il pose cette question, que veux-tu que je fasse? Et quelle est la réponse de Dieu? Quelle est la réponse du Seigneur? Lève-toi et on te dira ce que tu dois faire. L'apôtre Paul, il apprend dès le départ la soumission aux autres, aux hommes, parce que la soumission à Dieu, elle passe parfois par la soumission aux autres. Et on lui dit, l'apôtre Paul avait un potentiel extraordinaire, mais il devait apprendre à écouter aussi les autres. Et c'est parce qu'il apprendra tout cela qu'il sera l'apôtre Paul. Mais il a appris à se soumettre. Je parlais sur l'armée, j'ai un souvenir d'armée qui m'a marqué. Alors quand on dit qu'on a fait le service de l'armée, ça nous met dans une catégorie, je sais, un peu loin, mais bon. Quand j'ai fait l'armée, c'était en 91-92, j'étais en pleine révolte. Je connaissais le Seigneur, enfin j'avais entendu parler de Jésus, j'avais grandi, mais j'en voulais pas. Et j'étais au plus bas dans ma vie. J'étais en pleine méchanceté, en pleine révolte. Et il y a deux catégories de personnes que je n'aimais pas. Deux. La première catégorie de personnes que je n'aimais pas, c'était les chrétiens. Parce que quand je voyais des chrétiens, je voyais dans leurs yeux, convertis-toi, donne ton cœur à Jésus. Et je ne le supportais pas. J'étais en pleine révolte et curieusement, là où j'étais, à l'armée, à la Valbonne, j'étais en face, il y avait une civile en face, c'était une chrétienne évangélique. Et là, je sentais que Dieu me poursuivait. Et puis la deuxième catégorie que je n'aimais pas, parce que ça représentait l'ordre, la soumission et l'autorité, c'était les militaires. Et j'étais vraiment dans cette phase-là, un peu, des fois, c'est la méchanceté nous embête. Et j'étais vraiment dans cette période-là, je ne savais pas où j'en étais. Et un jour, à la trésorerie, un caporal arrive et dit, je quitte l'armée et je rentre en stage pastoral à Lyon. Un militaire chrétien. Et là, celui-là, alors là, lui, je ne peux pas le voir. Je ne peux pas le supporter. Et pour moi, ce n'est pas possible. Et je garde ça dans mon cœur. Sauf que, dans les mois qui ont suivi, je me suis converti. J'ai découvert le Seigneur et... Enfin, j'étais en train de me convertir. Et il y avait un rassemblement à Montélimar, où il y avait toutes les églises de la région et les pasteurs de la région. Et à un moment donné, il y a eu un appel. Et j'y suis allé. Et j'y suis allé avec simplement un simple désir. Seigneur, quelqu'un va prier pour moi, un pasteur. Mais pas celui-là. Pas celui-là. Et il y avait au moins une cinquantaine de pasteurs. Et j'étais là. Et savez-vous qui est venu prier pour moi? C'est celui-là. C'est celui-là qui est venu. Et il y avait comme une parole de Dieu qui me disait, maintenant c'est moi qui dirige. Ce n'est pas toi de décider comment les choses se font. Maintenant c'est moi qui dirige. Et je comprenais que Jésus-Christ ne veut pas être seulement mon sauveur. Il devait être aussi celui qui dirige. Et je devais apprendre à me soumettre. Seigneur, il a de l'humour. J'ai eu l'occasion de raconter ça à ce pasteur. On en a ri tous les deux et on en rit encore tous les deux. Mais ce n'est pas facile parce que nous sommes rebelles. Et c'est dans notre nature. Et si la chair, on l'alimente, si on l'entretient, si on la nourrit, ça fait beaucoup de tension à l'intérieur. Alors c'est vrai qu'on n'est pas des automates avec le Seigneur et qu'il nous a donné une réflexion, une intelligence renouvelée. Je n'ai pas besoin d'avoir toujours une parole ou une prophétie pour prendre une décision. Mais il y a quand même cette dépendance et cette soumission au Seigneur. C'est vrai dans le domaine de l'esprit. Rappelons-nous que des langues de feu se sont opposées. Elles se sont assises. Et rappelons-nous que la vie et la plénitude de l'esprit, c'est le Seigneur qui règne sur nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui doit diriger. Parce que parfois, la plénitude du Saint-Esprit de certains donne l'impression de... Il n'y a plus de contrôle. La deuxième pensée que je veux souligner, se soumettre, ça veut dire se placer dans une position d'humilité et de dépendance. Nous l'avons lu, se soumettre, c'est se mettre dessous. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et c'est vrai que c'est important. Je crois que savoir s'humilier, c'est quelque chose qui permettra toujours à Dieu de nous récupérer. Je remarque que dans la Bible, des hommes et des femmes sont sortis du plan de Dieu, non pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils n'ont pas su à un moment donné s'humilier et se remettre dans sa main. On est tous un peu têtus comme des mules, hein. On est tous un petit peu comme Ismaël, un âne sauvage. Mais je crois qu'on peut être des fois faire pas mal de boulettes dans la vie. Mais quand on sait reconnaître, se sait rendre, dire « Seigneur, là j'ai été mauvais, là j'ai péché, là je me suis emballé ». Et qu'on vient dans cette position d'humilité, le Seigneur peut toujours reprendre le contrôle sur notre vie. On a besoin de savoir nous humilier devant le Seigneur, d'apprendre à nous humilier pour ne pas être comme un âne sauvage, mais devenir plutôt comme cet âne qu'on a détaché et qu'on a amené vers Jésus. Et Jésus s'est assis dessus et il l'a conduit pour entrer dans Jérusalem. Et cet âne, il a été mis sous Jésus et il a porté Jésus. Nous connaissons tous ce texte de Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple, sur qui t'as invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Un texte bien connu sur lequel il y a beaucoup à dire. Vous avez trois bénédictions et vous avez quatre conditions. Mais la première des conditions, finalement, parce qu'elle permet les autres, c'est de savoir s'humilier, de reconnaître. De reconnaître que toi, Seigneur, tu es au ciel et moi, je suis sur la terre. Savoir que toi, Seigneur, tu connais toutes choses et moi, j'ai un horizon qui est bien bouché. Savoir que toi, tu es saint et moi, je suis un pécheur. Savoir que toi, tu es le sauveur et moi, je suis quelqu'un qui a été sauvé. Enfin, il y a beaucoup de réflexions qui devraient nous amener à nous humilier, mais en même temps, on a une nature qui pense toujours savoir mieux que les autres, qui a du mal à reconnaître ses erreurs. Je ne pense pas être le seul. On est tous comme ça, mais se soumettre à Dieu, rappelons-nous, c'est savoir nous humilier. Finalement, pour revenir un petit peu, on devient vainqueur quand Jésus triomphe de nous. Et ça rejoint Jacob. Quand il a été vaincu par l'ange de l'Éternel, il est devenu vainqueur. Ça rejoint ce que je disais au début, pour pouvoir résister au diable, il faut que Jésus-Christ puisse triompher sur notre vie. Finalement, si je résiste à Dieu, je ne peux pas résister au diable. Et puis le troisième point, j'accélère un peu parce que je voudrais aborder le troisième point, c'est se soumettre à Dieu, c'est finalement accepter dans la foi que Dieu règne sur toutes choses, en tout temps. Nous sommes dans une période troublée. Et puis on peut vivre aussi des périodes troubles au niveau de son cœur. Le trouble, il peut être sur le plan familial, il peut être sur le plan professionnel, il peut être sur le plan de la santé. On vit des choses compliquées des fois. Et c'est très important de se rappeler qu'en toute situation, lui, il est assis sur son trône. C'est important de bien s'en rappeler. Il règne. Il est maître et seigneur. C'est bon de s'en rappeler. Des fois, nous avons une vision un petit peu binaire du monde. C'est-à-dire que là, c'est le diable et là, c'est le Seigneur. Mais je crois que c'est une erreur de raisonner comme ça. Le diable, il n'est pas resté à l'entrée de l'église ce matin. Il est prêt à saisir toute occasion. Et si on fait une belle prière, il est capable de dire, t'as vu comme t'as bien prié? Il est capable de... Rappelez-vous, c'est quand Jésus a demandé à ses disciples, qui est-il? Pierre va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et qu'est-ce que lui dit Jésus? C'est mon Père qui t'a inspiré ces choses-là. Et Pierre, et tout de suite après, Jésus continue de parler, et il dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit mis à mort crucifié. Et là, Pierre encore, il n'a pas encore de vider la respiration, il dit, viens voir Jésus, il faut que je te parle. Tant que je serai avec toi, ça ne t'arrivera pas. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Arrière de moi, Satan. Inspiré, quelques minutes après, pas du tout inspiré. C'est important de se rappeler que la Bible nous dit que le monde gît sous la puissance du malin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable, il a une sphère d'action qui est au niveau de la planète. Il agit un peu de partout. Mais rappelons-nous toujours que Christ est celui qui règne. Il est au-dessus de tout. J'en arrive où? J'en arrive que quand il me vient une difficulté, forcément, il y a l'ennemi de mon âme qui n'est pas loin, mais le Seigneur, il est tout près. Il y a forcément une tentation qui va me pousser au découragement. Il y a forcément une tentation qui va me pousser au mal. Il y a forcément une sollicitation à la démission. Mais il y a une épreuve pour me rendre meilleur. Il y a un test pour que je devienne plus fort. Vous voyez, et c'est important de se placer en disant, je sais que Dieu ne permet pas que je sois éprouvé de mes forces. C'est bon de se rappeler que Dieu est toujours aux commandes, au contrôle. C'est même dans la situation trouble que nous connaissons. On n'y voit pas grand-chose. Mais c'est bon de se rappeler que notre Dieu, il règne, il est Seigneur. Et d'être dans cette position de foi. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir regarder les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés comme un sujet de joie complète. C'est fort. Mais c'est dans cette position de foi et de soumission à la Seigneurie de Jésus. C'est important aussi, je crois, de se rappeler cela dans le contexte. Je termine simplement en disant, nous avons un merveilleux Sauveur. Et si quelqu'un n'a pas Jésus comme Sauveur, ça commence là ce matin pour lui. Avoir Jésus comme Sauveur, c'est de savoir qu'il a pardonné nos péchés et qu'il est rentré dans notre vie. Et puis, je veux dire, on a un merveilleux Seigneur. Et il est celui qui est assis sur le trône. Il est celui qui gère tout, mais il s'intéresse à nos petites vies, à nos petits problèmes. Et c'est bon de se rappeler que tout ce qui nous arrive, c'est sous son contrôle. Et ça peut contribuer à me rendre meilleur. Ça peut contribuer à son œuvre. Et forcément, quand je suis dans cette position-là, alors le diable, il va être obligé de fuir à un moment donné parce qu'il va comprendre qu'il s'attaque à un mur. C'est bon de se le rappeler. Il est notre Sauveur. Il est notre Seigneur. Et nous voulons lui apporter notre reconnaissance, notre louange. Rappelons-nous ces trois aspects de la soumission. On accepte de le laisser diriger sur nos vies. Même si des fois, au premier abord, ce que Dieu veut ne semble pas correspondre avec ce que je veux. Mais c'est lui qui a raison. Rappelons-nous, sachons nous humilier, reconnaître nos limites, nos faiblesses, nos erreurs, nos péchés. Chaque fois que je m'humilie devant Dieu, quelque part je me replace dans sa bonne main. Et c'est bon de se le faire. Parce que je dis bien, on a tous du mal au niveau de la soumission, plus ou moins. Certains sont vraiment dociles, mais on sait ce que nous sommes. Et puis, réalisons bien que notre Dieu te commande. Et qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Que son nom soit béni. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir. Merci. Merci Seigneur, et nous voulons renouveler l'offrande de nos vies, la consécration de nos cœurs. Et nous voulons, Seigneur, nous soumettre à ta volonté, à ta personne. Seigneur, on a du mal à le faire des fois. Ou on sait le dire, mais on résiste. On retarde des fois nos décisions. Ça coince souvent dans notre cœur. Seigneur, nous voulons te le dire. Tu es notre Sauveur et tu es notre Seigneur. Merci de nous aider. On veut savoir s'humilier quand c'est le moment. C'est très bien Ton but, ce n'est pas de nous écraser, mais c'est l'humiliation qui permet justement l'élévation. Ça marche comme ça avec toi. Et puis, Seigneur, on veut vraiment réaliser que tu es maître et Seigneur en toutes choses, et que tu es celui qui est aux commandes, même quand ça n'y paraît pas. Et c'est bon de se le rappeler, de celui qui est aux commandes, au contrôle sur nos vies. Et c'est bon. Seigneur, nous te louons dans tout notre cœur. Merci, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous. Et je prie pour que dans ce qui a été partagé ce matin, il y ait vraiment quelque chose qui reste dans chacun de nos cœurs. Que ton nom soit béni. Amen.